élans réveillent à tous. Voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 4 morts hier au Nigeria. Les djihadistes du groupe Boko Haram ont encore frappé dans le nord-est du pays et sur les rives du lac Tchad. Des victimes des djihadistes doivent cohabiter avec des repentis de Boko Haram. Reportage dans un instant.
La réforme européenne du droit d'auteur, très attendue par les éditeurs de presse et les créateurs, mais fustigée par les géants du net, elle a franchi une étape décisive hier soir. Explication dans ce journal.
À la une encore, l'arrivée prochaine d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel, le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Berry dans le cadre du grand débat national aujourd'hui, et puis la condamnation hier à 1 an de prison ferme de Christophe Détinger, l'ancien boxeur qui avait frappé 2 gendarmes en janvier dernier.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, pourquoi les insectes disparaissent-ils si vite? On posera cette question à Colin Fontaine, il est écologue et chercheur au CNRS et au Muséum d'Histoire Naturelle.
Les djihadistes de Boko Haram ont donc encore frappé au Nigeria. Ils s'en sont pris au convoi militaire du gouverneur de l'état du Borno qui se rendait à un meeting électoral dans le nord-est du pays. 4 personnes tuées, 2 soldats et 2 civils. Des militants du parti au pouvoir auraient également été enlevés par les djihadistes. Un bus entier dont les autorités sont sans nouvelles. Avant les élections de samedi, présidentielles, législatives, sénatoriales, Boko Haram continue donc de faire régner la terreur, prouvant au président sortant, candidat à un second mandat, qui n'a pas réussi à tenir sa promesse d'éradiquer le groupe djihadiste. Muhammadu Buhari n'a pas non plus réussi à redresser le Nigeria sur le plan économique et l'ombre de Boko Haram s'est étendue dans les pays voisins Niger, Cameroun, Tchad. C'est tout autour du lac Tchad que se réfugient les populations traumatisées par les djihadistes, mais aussi les combattants qui se cachent sur les îles. Le reportage côté tchadien de Claude Guibal.
Du sable, des huttes de bois séché, des chèvres. La seule maison en dur de Koulkimé, c'est celle que l'on voit là-bas. Pas un meuble, juste quelques couvertures par terre et debout. Cet homme, il s'appelle Mohamed Aoudiaouda, c'est le représentant du chef du canton. Lorsque le président tchadien Idriss Déby a proposé aux jeunes recrutés par Boko Haram de se rendre contre une amnistie, il a accepté d'en accueillir à Koulkimé.
C'est une grande responsabilité, oui. Il faut être tolérant. Dans chaque société, il y a des gens qui font le bien et d'autres qui commettent des erreurs.
Sur le sol, 2 hommes, 2 frères, l'un a 23 ans, l'autre 19, leur vie a basculé il y a 4 ans.
Un jour, il y a des jeunes qui étaient partis, qui sont revenus au village, et ils nous ont dit que là où ils étaient, c'était vraiment bien, qu'il y avait tout ce qu'on voudrait, de l'argent, des femmes, tout.
Parce qu'ici, sur les rives du lac, il n'y a rien. Le Tchad est le 3e pays le moins développé au monde. À Koulkimé, il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas d'emploi, pas de développement. La région entière vit sous perfusion humanitaire depuis les immenses sécheresses des années 70, des sécheresses dont ne s'est jamais remis le lac, dont dépendent pourtant 40 millions de personnes. Leurs parents, raconte encore Abdoulaye, ont tenté de les dissuader, mais ni lui ni son frère n'ont écouté. Abdoulaye se souvient, le village au Niger où il a appris à monter, démonter une arme, à tirer, les cours de religion, les attaques de village, le pillage du bétail, revendu ensuite, les femmes enlevées comme captives, offertes comme épouses aux combattants. Et quand on lui demande s'il a tué, Abdoulaye jure que non, dit qu'il a à peine combattu.
Si tes chefs te demandent d'aller te battre, tu n'as pas le choix et tu obéis.
Abdoulaye le sait, il est la honte de sa famille. Lorsqu'on lui demande s'il a cherché à inciter d'autres jeunes à quitter Boko Haram, Abdoulaye ouvre enfin ses yeux, indéchiffrables.
Si ceux qui sont là-bas étaient persuadés que s'ils revenaient ici, ils auraient du travail, ils reviendraient tous. Mais s'ils savent que s'ils rentrent, ils vont rester les bras ballants, alors ils risquent de penser qu'il vaut mieux ne pas revenir.
Car dehors, à Koulkimé, il n'y a que du soleil, du sable, des réfugiés, de la malnutrition, de l'insécurité. Le crépuscule de Boko Haram apparaît encore bien lointain.
Le reportage de Claude Guibal à Koulkimé sur le lac Tchad. Depuis 2009, le groupe Boko Haram a tué plus de 27 000 personnes. À ses victimes, il faut ajouter les 2 millions de civils environ qui ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Le Nigeria n'en fait pas assez dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux. C'est l'un des pays qui a été ajouté hier sur la liste noire de la Commission européenne avec également l'Arabie Saoudite et le Panama, entre autres. Les institutions européennes ont réussi par ailleurs d'ailleurs, a s'accorder hier pour réformer la directive sur le droit d'auteur. Si le lobby du numérique, Google, Apple ou Facebook, fort du soutien de certains internautes, parle d'une mauvaise opération pour l'innovation et l'accès à certains contenus, les auteurs et les éditeurs, grands médias notamment, se félicitent eux d'une meilleure protection. Les précisions d'André Lucas, professeur de droit émérite de l'Université de Nantes, spécialiste du droit d'auteur.
L'idée, c'est d'obliger les plateformes à conclure des contrats avec les titulaires de droits à travers les organisations qui les représentent, essentiellement les organismes de gestion collective qui gèrent les droits, type SACEM. Et grâce à ces contrats, des revenus seront engrangés qui seront, selon des procédures classiques qu'on connaît bien depuis très longtemps, qui seront distribués aux auteurs. Ça suppose que les plateformes jouent le jeu. Elles sont très opposées à cette obligation. Elles veulent bien passer des contrats, mais elles ne veulent pas que la loi les y contraigne. Parce que les intérêts en jeu sont considérables d'un point de vue économique et elles ne veulent pas avoir à installer un filtrage automatique, c'est ça la grande question, qui serait fait sous leur responsabilité et qui restreindrait forcément la liberté d'action des internautes.
André Lucas, professeur de droit émérite à l'Université de Nantes, au micro de Cécile de Kervas-Doué. De nouveaux affrontements violents ont éclaté hier à Port-au-Prince entre la police haïtienne et des manifestants qui contestent le pouvoir en place, l'inaction des politiques face à la misère et la corruption généralisée. Une personne a été tuée, 7 au total depuis le début de la protestation la semaine dernière. Reportage à suivre dans le journal de 7h30.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Sur France Culture, personne ne s'y attendait. Alain Juppé est en passe d'être nommé au Conseil constitutionnel. C'est le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a officialisé hier la proposition.
Et l'actuel maire de Bordeaux accepte de faire son entrée parmi les sages. Alain Juppé remplacera Lionel Jospin au Conseil constitutionnel. Il ne comptait pas se représenter de toute manière au municipal en mars 2020. Stupeur à Bordeaux, mais aussi dans les rangs de la droite. C'est une bonne nouvelle pour la République, estime le Premier ministre Édouard Philippe, dont le parrain politique n'est autre qu'Alain Juppé. Pourquoi cette figure de la droite gaulliste et des années Chirac accepte-t-elle d'entrer au Conseil constitutionnel? Analyse à suivre dans le journal de 7h30. Un nouveau déplacement aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national. Le chef de l'État se rend dans l'Indre pour parler notamment de la fracture territoriale et numérique dans les zones rurales. L'objectif présidentiel est toujours de répondre à la crise des gilets jaunes. Et c'était lors d'une manifestation de gilets jaunes à Paris le 5 janvier dernier. Christophe Détinger avait frappé deux gendarme. Cet ancien boxeur a été condamné hier à 1 an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, ainsi qu'à 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve. Compte rendu d'audience avec Antoine Marette.
1 an ferme contre les 2 ans requis. Christophe Détinger reste en prison, contrairement à ce que demandait la défense. Mais son avocat, maître Hugues Vigier, est soulagé.
C'est une décision qui globalement nous satisfait. C'était un peu l'idée que nous avions, c'est-à-dire que cela justifiait une peine qui devait être une peine ferme et sévère. C'est une peine d'un an ferme prononcée. Beaucoup moins tout de même que ce qui était requis, mais surtout aménagé dès le départ. Voilà, on aurait préféré qu'il dorme chez lui dès ce soir, ça n'est pas encore le cas, mais d'ici 2 ou 3 jours sans doute, il pourra recouvrer la liberté pendant la journée. Et puis d'ici 2 ou 3 mois sans doute, nous reviendrons devant le juge d'application des peines pour lui demander de convertir la mesure provisoire de semi-liberté en libération conditionnelle.
Du côté des parties civiles, on salue un jugement équilibré. Maître Jean-Philippe Morel représente l'association Gendarmes et Citoyens.
Justice a été rendue, les victimes sont reconnues comme telles. Monsieur Détinger est interdit de manifestation dans Paris pendant 6 mois. L'absence de casier a sûrement pesé dans la décision du juge, mais la gravité des faits a été reconnue.
Le tribunal a également condamné Christophe Détinger à indemniser ses 2 victimes à hauteur de 2 000 et 3 000 euros.
La réforme de la fonction publique sera présentée ce matin lors d'une conférence de presse. Le texte a été présenté hier au syndicat, c'était lors d'une réunion à Bercy. Le gouvernement maintient son objectif, supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat, recourir davantage aux contractuels et réorganiser les instances représentatives, inacceptables pour les syndicats. Après 2 semaines de suspension, les difficiles négociations sur la réforme de l'assurance chômage reprennent aujourd'hui. Principal sujet de discorde encore et toujours, l'instauration d'un système de bonus-malus pour lutter contre la précarité, un système refusé par le patronat. Pour les députés de La République En Marche, c'est un amendement pragmatique qui rend compte du vécu des familles dans toute leur diversité. Mais la droite et l'extrême droite dénoncent, elles, un vote dogmatique. L'Assemblée nationale a adopté avant-hier en première lecture un amendement qui consacre l'homoparentalité dans les formulaires administratifs soumis à l'école. Ils devront porter les mentions parents 1 et parents 2 et non plus père et maire. Un amendement qui divise Rosalie Lafarge.
De l'inscription à la cantine à l'autorisation pour une sortie scolaire, aujourd'hui, très souvent, les formulaires portent les mentions père et mère. C'est dépassé pour Anne Bruniera. La députée de La République En Marche défend cette proposition de sa collègue.
C'est un amendement extrêmement pragmatique. Ce qui est important lorsqu'on inscrit un enfant à l'école, c'est qui est son responsable légal. Véritablement, c'est ça qu'on recherche. Il se trouve que parfois c'est un père, parfois c'est une mère, parfois c'est une grand-mère, parfois c'est une famille homoparentale. Et donc, ces appellations permettent de comprendre tout le monde dans le même formulaire. Et c'est pas de l'affichage, c'est extrêmement pratique. Hein. Ça correspond à la vie de nos familles aujourd'hui.
Et une fois n'est pas coutume, la France Insoumise est d'accord avec cette proposition de la majorité, le député LFI Éric Coquerel.
On est totalement favorable. Ça s'adapte à l'évolution de la société et les qualités républicaines. Doit être traduit à un moment donné, y compris dans le vocabulaire.
Mais c'est du grand n'importe quoi pour Philippe Gosselin, élu Les Républicains à l'Assemblée nationale.
Il ne s'agit pas de méconnaître l'homoparentalité, mais pour reconnaître l'homoparentalité, on est en train de nier le fait parental avec l'existence d'un père, d'une mère. Il y a une forme de négation, parce que qui demain, dans un couple hétérosexuel, qui est le parent 1, qui le parent 2? En réalité, on nie, et ça me paraît très grave, les fonctions de père et de mère qui ne sont pas interchangeables. On a cédé à la facilité démagogique et dogmatique.
Pas pour cet amendement non plus, le ministre de l'Éducation et la rapporteure LREM du projet de loi pour une école de la confiance, Jean-Michel Blanquer et Anne-Christine Lang, ont donné un avis défavorable. Pour eux, le changement réclamé ne relève pas du domaine de la loi.
C'est officiel, Airbus fait une croix sur l'A380. Le constructeur aéronautique cesse la production de son gros porteur, faute de commandes suffisantes. L'A380 n'est plus adapté au marché actuel des longs courriers. Les grandes compagnies délaissent les quadri-réacteurs au profit de bi-réacteurs nouvelle génération. Les Airbus A350 ou encore le Boeing 777 qui consomment moins pour un même rayon d'action que l'A380, avec une capacité comparable. Les salariés d'Airbus qui travaillaient sur les A380 devraient être redéployés sur des avions les plus demandés, les A350 ou les A320. Et la compagnie Emirates, qui avait commandé 20 A380 en janvier dernier, compte en convertir un certain nombre en Airbus A350, le nouveau long courrier d'Airbus. Le temps de ce jeudi 14 février, ensoleillé après dissipation des brumes matinales. Les températures sont encore fraîches ce matin dans la moitié nord du pays, avec jusqu'à moins 6 dans le nord-est. Au meilleur de la journée, il fera entre 10 et 15 degrés dans la moitié nord du pays, 13 à 17 en général au sud et jusqu'à 19 dans le Pays Basque, Guillaume Erner.
Merci beaucoup Catherine Dutus.